Chapitre 37. Piégé sous la toile, Callan ne voyait plus rien. La fumée âcre la faisant suffoquer, elle se débattait frénétiquement mais n'avançait pas d'un pouce vers sa libération. La chaleur des flammes tout près de son visage faisait monter en elle une angoisse proche de la panique. Sa fatigue oubliée, elle luttait férocement pour aspirer un peu d'air et sortir de ce qui risquait d'être bientôt son linceul.
« Où êtes-vous ? »
cria une voix. C'était celle de Kara. Elle semblait proche, comme si la mort de Sith aussi était traînée sur le sol et combattait férocement pour sa survie. Dans cette situation délicate, Kara gardait assez de contrôle d'elle-même pour ne pas utiliser le nom ou le titre de sa protégée en présence de l'ennemi. L'inquisitrice espéra que Verna y penserait également.
« Ici ! »
cria Callan. Son épée étant coincée contre sa jambe par la toile, elle comprit qu'elle ne pourrait pas s'en servir. Par bonheur, en se tortillant, elle parvint à saisir la garde du coutelas accroché à sa ceinture. Après avoir tourné la tête pour sentir un peu moins la chaleur des flammes, être aveuglée par la fumée ajoutait encore de l'horreur à l'expérience qu'elle était en train de vivre, elle dégaina l'arme et entreprit de larder la toile de coups. Puis, la tente écroulée percuta quelque chose et fut soulevée du sol. Lorsqu'elle retomba, l'impact coupa le souffle à Callan. Dès qu'elle eut repris sa respiration, inhalant de la fumée au passage, elle recommença à frapper la tente et réussit à la fendre sur une assez grande longueur au moment où la partie qui ne brûlait pas encore s'embrasait.
« Kara, je ne peux pas !»
La tente percuta de nouveau quelque chose. Alors que son épaule s'écrasait contre un objet très dur, peut-être le tronc d'un arbre, Callan fut projeté vers le haut, traversa l'ouverture, où fut recraché par la toile parce qu'elle était coincée entre deux plis, et tomba dans la neige. Si elle n'avait pas porté sa cuirasse, les os de son épaule et de son bras n'auraient pas résisté au choc. Miraculeusement, elle était libre et indemne. Se relevant, elle regarda autour d'elle. À quelques pas de là, le général Meffert venait de désarçonner, en saisissant sa cotte de maille au passage, le cavalier qui tirait la tente derrière lui. Un manteau en peau de bête lui donnant l'allure d'un grizzly déchaîné, le soudard de l'ordre à la barbe et aux cheveux noirs emmêlés et crasseux tenta de bondir sur le général. En un éclair, Callan remarqua que toutes les dents de devant du soldat brillaient par leur absence. Mais il n'aurait plus jamais à s'en soucier, car Meffert le décapita d'un seul coup d'épée. D'autres ennemis semaient la terreur dans le camp. Voyant qu'un destrier la chargeait, son cavalier brandissant un fléau d'armes, Callan rengaina ses deux lames. Puis, elle ramassa la lance du colosse barbu tué par Meffert et planta l'embout devant elle, dans une congère, juste à temps pour que le poitrail du destrier vienne s'embrocher sur le fer. Le soldat de l'ordre sauta souplement de sa monture avant qu'elle s'écroule. Alors qu'il dégainait son épée de sa main libre, le fléau d'armes toujours serré dans l'autre, l'inquisitrice tira du fourreau sa propre lame et, vive comme l'éclair, fendit en deux la tête de son agresseur. Enchaînant sans marquer de pause, elle plongea sous les jambes d'un autre destrier pour éviter le coup qu'entendait lui porter son cavalier. Roulant sous le ventre de l'animal, elle se releva dès qu'elle fut de l'autre côté et ouvrit jusqu'à l'os la cuisse du soudard qui avait tenté de la tuer. D'instinct, elle se retourna et enfonça jusqu'à la garde son épée dans le poitrail d'un nouveau destrier qui menaçait de la renverser. Alors que les talons hennissaient de douleur, elle dégagea sa lame une fraction de seconde avant qu'il s'écroule sur le flanc déjà agonisant. Voyant que le cavalier était coincé sous sa monture, Callan l'acheva d'un coup d'épée dans la gorge. Pour le moment, le terrain était dégagé. L'inquisitrice en profita pour approcher de la tente. Agenouillée à côté, Meffert essayait d'aider Kara, Adi et Verna à se libérer. D'autres cavaliers ennemis passaient à côté de l'amas de toile, et s'ils le piétinaient, les trois femmes risquaient d'y laisser la vie. Par bonheur, les flammes avaient été étouffées par la neige. Callan aida le général à taillader la toile, puis à la déchirer. Redoublant d'efforts, ils parvinrent à libérer Adi et Verna, serrées l'une contre l'autre, comme si elles avaient décidé de s'enlacer. Du sang coulait de la tête d'Adi, mais elle fit signe à Callan de ne pas s'en inquiéter. Verna se releva et vacilla aussitôt comme un ivrogne. L'étrange cavalcade lui avait donné le tournis comme à l'inquisitrice, il était honnête de l'admettre. Callan prit la main de la Dame des Ossements pour l'aider à se redresser. Effectivement, la coupure qu'elle arborait sur le front ne semblait pas bien grave. Mais Meffert se débattait toujours avec la toile, Kara était encore coincée dessous et elle ne criait plus.
« Selon vous, ce n'était pas de véritable sonnerie d'alarme ?» dit Callan en prenant Verna par le bras.
La signature magique manquait, confirma la dame abbesse. Nos ennemis ont réussi à nous tromper, le créateur seul sait comment. Partout aux alentours, des darans affrontaient les envahisseurs. Comme toujours à ces moments-là, le vacarme était assourdissant. Ainsi qu'au jour de leur naissance, quand ils y arrivaient, les hommes quittaient souvent le monde sur un cri déchirant. Une partie des cavaliers mettait le feu aux chariots et aux tentes, d'autres se concentraient sur les défenseurs qu'ils essayaient de décapiter ou de faire piétiner par leurs destriers. Agissant souvent en binôme, ils s'acharnaient sur un soldat bien précis, puis changeaient de proie dès que la précédente avait cessé de vivre. Ces hommes recouraient à la tactique que les darans avaient utilisée contre eux. À son corps défendant, Kalan leur avait appris comment faire. Une masse d'armes hérissée de pointe au point, un cavalier chargea l'inquisitrice. D'un seul coup d'épée, elle lui trancha la main au passage, envoyant son arme voler dans les airs avec les doigts qui la serraient. Hébété, l'homme tira sur les rênes de sa monture, qui s'arrêta net. Sans laisser au soudard le temps de se reprendre, Kalan lui enfonça son épée dans le ventre, sous le bord de sa cuirasse. Un coup porté de bas en haut qui ravagea les organes du sbire de Jagang. Sans prêter attention à la façon dont il mourait, l'inquisitrice dégagea sa lame, se retourna et se prépara à affronter une nouvelle menace. N'en voyant pas venir, elle s'agenouilla de nouveau à côté de Mefert pour l'aider à dégager Kara de l'entrelac de cordes et de toiles plusieurs fois pliées dont elle était prisonnière. De temps en temps, un des deux sauveteurs dut s'interrompre pour repousser un attaquant, mais l'ennemi ne les harcelait plus vraiment. Kalan voyait les bottes rouges de la mort de Sith émerger dessous la toile. Kara ne battait plus des jambes. Un très mauvais signe. Quand l'inquisitrice et le général eurent fini de la dégager, ils constatèrent avec soulagement qu'elle n'était pas morte. Sonnée mais toujours consciente, elle gémissait de douleur. Kalan trouva vite la bosse qui poussait sous ses cheveux, mais quand elle eut retiré sa main, elle ne vit pas de sang sur ses doigts. Bien entendu, la mort de Sith voulut se relever.
« Non, ne bouge pas !»
lui ordonna Kalan. « Tu as reçu un coup à la tête, il ne faut pas te lever pour l'instant. » L'inquisitrice tourna la tête et vit Verna, à quelques pas de là, repousser une nouvelle charge ennemie. À chaque mouvement de ses mains, un sort invisible désarçonnait un cavalier ou le coupait en deux, une lame d'air aussi tranchante que n'importe quelle épée, mais 10 fois plus rapide et précise. Sans le soutien de leur force magique, les soldats de l'ordre étaient sans défense, car les attaques de la dame abbesse traversaient leur cuirasse comme du beurre. Kalan cria pour attirer l'attention de Verna et lui fit signe d'approcher.
« Occupez-vous de Kara !»
hurla-t-elle pour couvrir le fracas de la bataille.
« Vous pensez pouvoir l'aider ?»
La dame abbesse acquiesça et courut rejoindre la mort de Sith. Kalan et Mefert la remplacèrent à son poste de combat. Alors qu'un cavalier passait à côté de lui, zébrant l'air de coups de lance, le général esquiva ses attaques, puis sauta sur le flanc du destrier et s'accrocha au pommeau de la selle. De sa main libre, il embrocha le lancier qui regarda fixement la pointe d'acier saillir de son ventre après l'avoir traversé de part en part. Mefert effectua un rétablissement acrobatique, saisit l'homme par les cheveux et le fit basculer de sa selle. Prenant sa place, il fondit sur les cavaliers adverses. Kalan ramassa la lance du mort. Tandis que le général protégeait Kara et Verna en passant à la contre-attaque, une méthode toujours efficace, l'inquisitrice rengaina son épée et se servit très efficacement de la lance contre les destriers. Bien plus intelligent que le pensaient certains imbéciles, les chevaux détestaient être blessés au poitrail, même quand on les avait entraînés pour la guerre. Dès qu'ils voyaient un fer de lance devant eux, ils faisaient tout pour l'éviter. Beaucoup se cabrèrent, désarçonnant leurs cavaliers. Des proies idéales pour les soldats d'Aran qui accouraient afin de défendre l'épouse de leur seigneur. Du haut de son destrier, le général fit mettre ses guerriers en formation défensive. Dès que ce fut fait, il repartit à l'assaut après avoir ordonné aux soldats de tenir la position coûte que coûte. Kalan cria aux hommes de ramasser toutes les lances qu'ils trouveraient. Puis, elle se joignit à eux pour faire face à un groupe d'environ 200 cavaliers ennemis qui tentaient de sortir du camp après avoir accompli leur mission. Il n'était pas question qu'ils s'enfuient. Et ils avaient copié sa tactique. Et c'était de bonne guerre, mais elle n'était pas disposée à leur concéder la victoire. Les destriers se cabrèrent ou s'arrêtèrent quand ils virent la muraille de lances et de piques qui les attendait. D'autres darans, des archers, en profitèrent pour cribler de flèches le dos des cavaliers. Les fantassins darans chargèrent, firent tomber de leur monture les agresseurs et les affrontèrent au corps à corps.
Pas un ne doit sortir vivant du camp,
cria Callan.
Pas de quartier.
Pas de quartier,
répondirent des centaines de gorges d'Aran. Si arrogant lors de la première phase du combat quand il croyait pouvoir verser à bon compte le sang des défenseurs, les bouchers de Jagang devinrent vite une bande d'hommes désespérés qui attendaient de se faire tailler en pièces. Callan laissa ses soldats finir la besogne et courut rejoindre Kara, Adi et Verna. En chemin, elle dut zigzaguer pour ne pas piétiner les morts ou les blessés. Certains soudards, moins gravement touchés que les autres, tentèrent de lui saisir une cheville au passage. Pour se dégager, elle les acheva sans l'ombre d'un remords. Quelques soldats valides tentèrent de l'attaquer. Ils le regrettèrent aussitôt avant de s'écrouler dans la poussière, le ventre ouvert. Les attaquants savaient qui elle était, ça semblait évident. Jagang l'avait vue et il s'était sûrement empressé de la décrire à ses hommes. La tête de l'inquisitrice, à coup sûr mise à prix, devait valoir une petite fortune. Des soldats ennemis couraient dans tout le camp, sûrement pas des fantassins, mais plutôt des cavaliers privés de leur monture. En général, les lances et les flèches faisaient plus de ravages parmi les chevaux que parmi les hommes. Dans la nuit, distinguer les amis des adversaires risquait de devenir difficile. Et ces soldats infiltrés malgré eux risquaient de profiter de l'occasion pour tuer des officiers ou la mère inquisitrice. Callan dut affronter plusieurs petits groupes d'agresseurs qu'elle tailla en pièces avec une sereine efficacité. L'entraînement de son père, puis les conseils de Richard n'étaient pas tombés dans l'oreille d'une sourde. Curieusement, les leçons de Wyborn, hautement classiques, étaient une base parfaite pour assimiler les tactiques plus ésotériques de Richard. Au début, Callan avait eu du mal à s'y faire. Désormais, cette façon de se battre lui semblait naturelle. Au lieu de tenir pour un handicap son désavantage en matière de taille et de poids, elle en tirait le meilleur parti, car il lui conférait deux extraordinaires atouts, une agilité et une vitesse d'exécution 10 fois supérieure à celle de ses adversaires. Quand il affrontait avec une épée factice, Richard, sans avoir l'air d'y toucher, lui transmettait tous ses secrets. L'épée de vérité, toujours accrochée dans son dos, lui rappelait sans cesse qu'elle devait tirer le meilleur parti de cette précieuse formation. Elle parvint finalement à rejoindre Verna, toujours penchée sur Kara, mais ne vit pas trace du général Meffert.
« Comment va-t-elle, Dame Abbess ?»«
Elle a vomi et ça s'arrange un peu depuis. Elle se rapatra qu'un moment, mais elle se remettra complètement. »«
Heureusement, » intervint Adi. « Elle a le crâne solide. Il ne s'est pas cassé comme une noix, c'est déjà ça. Cela dit, il lui faudra du repos. »
La mort de Sid bougeait les mains comme si elle avait du mal à savoir où étaient le sol et le ciel et pensait pouvoir s'en sortir en tâtonnant. Bien que sonnée, elle essayait de se lever et accablait d'injures la pauvre dame Abbess qui faisait tout pour l'en empêcher.
« Kara, » dit Callan en s'agenouillant, « je suis là et je n'ai pas une égratignure. » Tu consentirais à rester tranquille quelques minutes?
Je veux étriper ces chiens.
Plus tard.
Ne t'inquiète pas, tu en auras l'occasion. Callan se tourna vers Adi.
Et vous, cette blessure à la tête?
La dame des ossements eut un geste insouciant.
3 fois rien. Mon crâne est encore plus solide que celui de Kara.
Entourées d'un cordon de soldats, les 4 femmes ne risquaient plus rien. Et de toute façon, dans le secteur, les choses semblaient s'être calmées. Le général Meffert revint, traversa à cheval le cercle défensif et sauta à terre. Indigné d'avoir été monté par un ennemi, le destrier détala aussitôt. Bien qu'essoufflé, le général ne prit pas le temps de se reposer.
« Je suis allé à la lisière du camp, et pour le moment, il s'agit simplement d'un raid. Moins important qu'on aurait pu le croire, qui plus est. Les agresseurs se sont massés dans ce secteur parce qu'ils vous avaient repéré, mère inquisitrice. Ailleurs, il y a eu beaucoup moins de grabuges. »
« Que s'est-il passé avec les cornes ?» demanda Callan.
« Je n'en suis pas certain. Zed suppose qu'ils ont percé à jour notre codage magique. Quand nos hommes ont sonné l'alarme, il a suivi d'un sort soustractif pour neutraliser notre signature. »
Callan en grogna de rage. Elle commençait à tout comprendre.
« C'est pour ça qu'il y a eu tant de fausses alertes. Ils voulaient endormir notre vigilance pour le jour où ils passeraient vraiment à l'attaque. »
« Je vois aussi les choses comme ça. »
Le général baissa les yeux et aperçut enfin Kara, qui le foudroya bien entendu du regard.
« Vous allez bien ? J'étais si... Nous nous sommes inquiétés pour vous. »
Il n'y a pas de quoi.
Kara jeta un regard noir à Kalan et à Verna qui la maintenaient au sol.
Certaine que vous vous en tireriez très bien sans moi, j'ai décidé de m'offrir un petit somme.
Mais Furt fit un gentil sourire à la mort de Sith, puis il se tourna vers Kalan, l'air très grave.
Mère inquisitrice, cette charge de cavalerie était une diversion. Nos ennemis espéraient vous tuer, mais cette escarmouche cache quelque chose d'autre.
L'attaque générale est pour bientôt, c'est ça?
Toute l'armée s'est mise en mouvement. Elle est encore loin, mais c'est une question d'heure. Le raid visait surtout à nous désorienter pour que nous ne puissions pas nous préparer.
Kalan frissonna. Jusque-là, l'ordre n'avait jamais attaqué après le coucher du soleil. L'idée d'une bataille si massive dans l'obscurité était terrifiante.
Jagang a changé de stratégie parce qu'il apprend vite. J'ai cru l'avoir roulé dans la farine, mais c'était moi le dindon de la farce.
Que marmonnez-vous?
Demanda Kara, les mains pressées sur le ventre comme si elle avait des coliques.
L'empereur savait que je ne tomberais pas dans le panneau en voyant ses hommes tourner en rond. Il m'a fait croire que j'étais plus fine que lui et je me suis laissé avoir.
Quoi?
S'écria la mort de Sith.
Jagang m'a poussé à vouloir lui tendre un piège. Quand ses espions l'ont averti du départ des Galéiens et peut-être aussi des Keltiens, il n'a pas cru un instant qu'ils allaient intercepter ses forces fantômes. Mais être pris en tenaille ne l'inquiétait pas puisqu'il avait prévu depuis le début d'attaquer avant que les mâchoires du piège soient en place.
Quand vous lui parliez hier, il savait que vous faisiez semblant de gober son histoire?
À l'évidence, Kara ne parvenait pas à en croire ses oreilles.
J'ai bien peur que oui. Il a été bien plus malin que moi. Rien n'est encore joué,
intervint Mefurt. Nous pouvons quitter cette zone avant qu'ils arrivent.
Et si nous rappelions les Galéiens et les Keltiens?
Proposa Verna.
Avec eux à nos côtés, la partie serait plus égale. Ils sont à des heures d'ici et ils n'arriveraient jamais à temps.
Au lieu de se lamenter sur sa stupidité, Kalan se concentra sur le problème le plus urgent.
Il va falloir agir vite,
dit-elle.
Oui, mais notre plan de secours, reculer et se disperser dans les montagnes, devrait marcher.
Mais Furt passa nerveusement une main dans ses cheveux blonds. Un geste que Richard faisait souvent quand il était furieux ou perplexe.
L'ennui, mère inquisitrice, c'est que nous allons devoir abandonner la plus grande partie des vivres. En plein hiver, sans réserve, beaucoup de nos hommes ne survivront pas. Qu'on tombe au combat ou qu'on crève de faim, on est tout aussi morts.
Perdus dans la nature et sans provisions, nous deviendrions des proies faciles,
approuva Kalan.
C'est une solution extrême, général. Elle sera peut-être inévitable un jour, mais pas ce soir. Pour résister à l'hiver, nous devons tous rester ensemble. De plus, c'est le seul moyen de ralentir l'ordre et de protéger les contrées.
Vous avez raison. Si Jagang a les mains libres, il s'attaquera à de grandes villes et ce sera un massacre. Pis encore, s'il choisit la bonne cité, nous serons dans l'impossibilité de l'en déloger. Et nous n'aurons plus aucun espoir de le renvoyer chez lui.
Et la vallée dont nous parlions l'autre jour, vous savez, en montagne? Un défilé très étroit y donne accès, et il suffirait de deux hommes et d'un chien pour le défendre.
J'en étais arrivé à cette conclusion. L'armée restera unie, et Jagang devra toujours compter avec elle. S'il tente de contourner l'obstacle, nous l'attaquerons dans le dos, car il est très facile par le nord de quitter la vallée. Des renforts nous rejoindront bientôt, et nous pouvons en demander d'autres. Il faut continuer à nous dresser sur le chemin de l'ordre. Pour ça, la vallée en question est idéale.
« Dans ce cas, qu'attendons-nous pour partir ?»
demanda Verna.
« Il y a un problème, » répondit Mefurt pensif. « Pour atteindre cette vallée, il nous faudra trop de temps, ce qui permettra à l'ordre d'arriver assez tôt pour nous tomber dessus. Le défilé est trop étroit pour les chariots. Les chevaux passeront, mais il faudra démonter tous les véhicules. Ça implique de porter beaucoup de pièces détachées, plus les caisses de provisions et les équipements de réserve. » Cela dit, ne vous faites pas d'illusions. Il faudra laisser pas mal de choses derrière nous. Être prêt au départ ne prendra pas longtemps, mais le transfert des hommes et du matériel par le défilé m'inquiète beaucoup, surtout dans le noir.
Si les hommes marchent en colonne, intervint Adi, avec des porteurs de torches en tête, il leur suffira de suivre la lumière.
Kalan se souvint de la poussière phosphorescente improvisée par Zed pour marquer son étalon.
Les sœurs laisseront une piste lumineuse histoire de nous faciliter la tâche.
Ce serait bien utile,
concéda Meffert.
Mais notre problème principal reste entier. Pendant que certains soldats finiront de démonter le camp et que d'autres chemineront lentement dans le défilé, l'ordre nous tombera dessus. Se défendre et battre en retraite en même temps n'a rien de simple, croyez-moi. Pour avoir une chance de réussir, il faut se déplacer plus vite que l'adversaire. Aujourd'hui, le terrain joue contre nous.
Ce n'est pas la première attaque, et nous avons toujours réussi à déplacer le camp sans que nos lignes de défense soient enfoncées.
C'est exact, dit Meffert. Nous pouvons nous replier dans une vallée plus proche, et pas en altitude, mais en pleine nuit, pendant un assaut de l'ordre, je pense que ce serait une erreur fatale. L'obscurité aussi joue contre nous. Le jour, nous pourrions ériger des défenses et tenir le temps nécessaire. Là, ça me paraît impossible.
Nous avons déjà des défenses, rappela Kara. Pourquoi ne pas rester où nous sommes et encaisser leur charge de front?
C'était ma première idée. Et ça reste une possibilité. Mais je ne miserai pas gros sur nos chances de succès. Dans le noir, beaucoup d'adversaires pourront s'infiltrer dans nos lignes. De plus, nos archers seront impuissants. Je devrais commander à l'aveugle, et placer correctement mes hommes sera un vrai casse-tête. Quand on combat en infériorité numérique, de tels désavantages sont mortels. Nos forces magiques ne sont pas assez nombreuses pour parer à toutes les éventualités. Et dans une guerre, c'est toujours le point qu'on ne peut pas défendre qui subit un assaut. Si l'ordre passe par une brèche et nous prend à revers, nous serons morts avant d'avoir compris ce qui nous arrive.
Je suis d'accord avec cette analyse, dit Callan. Le défilé est la seule issue qui nous épargnera une déroute. Tenir le terrain est un pari perdu d'avance, et de toute façon, qu'aurions-nous à y gagner même si un miracle se produisait?
C'est bien raisonné, admit Meffert. Mais il reste le problème pratique. Comment atteindre notre destination avant l'arrivée de l'ordre?
L'inquisitrice se tourna vers la dame abbesse.
Il faut ralentir l'ennemi, Verna. Qu'attendez-vous de moi? Utilisez votre verre spécial.
Pardon?
S'exclama le général.
De quoi parlez-vous?
Une arme magique,
expliqua Kara.
Du verre très finement pilé qui rendra aveugles nos ennemis.
Mais,
balbutia Verna.
Callan, je ne suis pas prête. Nous n'avons qu'une petite quantité de...
C'est...
Général,
demanda Callan.
Selon nos éclaireurs, dans combien de temps l'ennemi sera-t-il là?
Une heure au plus tôt, deux heures au plus tard. Si nous ne le ralentissons pas, il restera deux solutions. Nous éparpiller dans les montagnes ou faire face. Deux possibilités plus désastreuses l'une que l'autre.
Dans les montagnes,
intervint Adi,
nous finirons tous par mourir. Ensemble, nous vendrons au moins chèrement notre peau. Et si nous choisissons la fuite, l'ordre en profitera pour semer la terreur dans les contrées. Pour moi, il n'y a pas à hésiter. Battons-nous pour finir en beauté, s'il n'y a rien de plus efficace à faire.
Callan s'accorda quelques secondes pour réfléchir.
Jagang avait changé de tactique, prenant le risque d'un combat de nuit. Un chef concerné par la vie de ses hommes aurait hésité, car les pertes même en cas de victoire seraient énormes. Mais l'empereur n'était pas homme à s'en faire pour ça.
« Si nous livrons bataille ce soir,
dit l'inquisitrice,
nous aurons sûrement perdu la guerre avant le lever du soleil. »«
Je pense la même chose,
renchérit Meffert.
Il faut tenter de traverser le défilé. Nous perdrons tous les soldats qui ne seront pas passés à temps, mais il nous en restera assez pour continuer le combat dans les semaines à venir. »
L'officier et les trois femmes se turent un moment. Sacrifier ainsi des soldats en toute connaissance de cause était terrifiant. Partout dans le camp, les hommes éteignaient les incendies, rattrapaient des chevaux paniqués, s'occupaient des blessés et finissaient d'écraser les derniers agresseurs coincés sur place après leur raid à demi réussi. Les soudards de l'ordre étaient submergés par le nombre. Hélas, ça ne durerait pas. Callan tentait de réfléchir, mais la rage d'avoir été dupé par Jagang l'en empêchait. Pour se calmer, elle se remémora une des phrases favorites de Richard. « Pense à la solution, pas au problème. » Cette maxime n'avait jamais été si bien adaptée à une situation.
Il nous reste une heure, deux au maximum. Verna, vous pensez pouvoir fabriquer assez de verre spécial dans ce délai?
et avoir le temps de le lancer sur les attaquants?
Je ferai mon possible. Vous pouvez compter sur moi.
Désolé, mais je ne peux rien promettre de plus. Bien entendu, il me faudra l'aide des sœurs qui s'occupent des blessés.
Pourrais-je en plus disposer de celles qui sont en poste devant le camp pour neutraliser la sorcellerie adverse?
Prenez-les aussi, dit Kalan. Si vous ne réussissez pas, plus rien n'aura d'importance de toute façon.
Dans ce cas, je mobiliserai toutes mes sœurs, parce que c'est notre seule chance d'y arriver.
Vous devriez y aller sans tarder, conseilla Adi à la dame abbesse. À votre place, j'opérerai juste derrière nos lignes, histoire de profiter du vent qui souffle dans la bonne direction. Je me chargerai de rassembler les sœurs et de vous les amener.
Il nous faudra du verre, dit Verna au général. Tout ce que vous avez si possible.
Mes hommes se chargeront de vous en apporter. Pourront-ils vous aider à le concasser?
Hélas non. Ce travail doit être effectué par des magiciennes. Fournissez-nous du verre, ce sera déjà beaucoup.
Le général promit qu'il ferait son maximum. À 10 sur les talons, Verna s'éloigna à grandes enjambées.
Je vais donner l'ordre du départ,
annonça le général.
Les éclaireurs baliseront le chemin, puis nous commencerons par évacuer le matériel et les vivres.
Si ça marchait, le point de Jagang ce soir se refermerait sur du vide. Tout dépendait de Verna désormais.
Le général hésita un peu avant de partir, comme s'il voulait laisser à la mère inquisitrice une ultime occasion de changer d'avis.
« Allez-y, général, » dit Kalan. « Kara, nous avons du travail. »